Mon père s'en va, dit Eugénie, qui du haut de l'escalier avait tout entendu. Le silence était rétabli dans la maison et le lointain roulement de la voiture qui cessa par degrés ne retentissait déjà plus dans son mur endormi. En ce moment, Eugénie entendit en son cœur, avant de l'écouter par l'oreille, une plainte qui perça les cloisons et qui venait de la chambre de son cousin. « Il souffre, » dit-elle en grimpant deux marches. La porte était entrouverte. Elle la poussa. Charles dormait, la tête penchée, en dehors du vieux fauteuil. Sa main avait laissé tomber la plume et touchait presque à terre. « Il doit être bien fatigué, » se dit-elle en regardant une dizaine de lettres cachetées. « Il a sans doute arrangé toutes ses affaires pour pouvoir bientôt quitter la France, » pensa-t-elle. Ses yeux tombèrent sur deux lettres entrouvertes. Ces mots qui en commençaient une, « Ma chère Annette », lui causèrent un éblouissement. Son cœur palpita, ses pieds se clouèrent sur le carreau. « Sa chère Annette, il aime, il est aimé, plus d'espoir ? Que lui dit-il ? » Ses idées lui traversèrent la tête et le cœur. Elle lisait ces mots partout, même sur les carreaux, en traits de flamme. « Déjà renoncé à lui ? Non, je ne lirai pas cette lettre, je dois m'en aller. » Si je la lisais cependant. Elle regarda Charles, lui prit doucement la tête, la posa sur le dos du fauteuil, et il se laissa faire comme un enfant qui, même en dormant, connaît encore sa mère et reçoit sans s'éveiller ses soins et ses baisers. Comme une mère, Eugénie releva la main pendante, et comme une mère, elle baisa doucement les cheveux. « Chère Annette !» Un démon lui criait ces deux mots aux oreilles. « Je sais que je fais peut-être mal, mais je lirai la lettre, » dit-elle. Eugénie détourna la tête car sa noble probité gronda. Pour la première fois de sa vie, le bien et le mal étaient en présence dans son cœur. Jusque-là, elle n'avait eu à rougir d'aucune action. La passion, la curiosité l'emportèrent. À chaque phrase, son cœur se gonfla davantage et l'ardeur piquante qui anima sa vie pendant cette lecture lui rendit encore plus friand les plaisirs du premier amour. « Ma chère Annette, rien ne devait nous séparer, si ce n'est le malheur qui m'accable et qu'aucune prudence humaine n'aurait su prévoir. Mon père s'est tué. Sa fortune et la mienne sont entièrement perdues. Je suis orphelin à un âge où, par la nature de mon éducation, je puis passer pour un enfant, et je dois néanmoins me relever homme de l'abîme où je suis tombée. Je viens d'employer une partie de cette nuit à faire mes calculs. Si je veux quitter la France en honnête homme, et ce n'est pas un doute, je n'ai pas 100 francs à moi pour aller tenter le sort aux Indes ou en Amérique. Oui, ma pauvre Anna, j'irai chercher la fortune sous les climats les plus meurtriers. Sous de tels cieux, elle est sûre et prompte, m'a-t-on dit. Quant à rester à Paris, je ne saurais. Ni mon âme, ni mon visage ne sont faits à supporter les affronts, la froideur, le dédain qui attendent l'homme ruiné, le fils du failli. Bon Dieu, de voir 2 millions, j'y serais tué en duel dans la première semaine. Aussi n'y retournerai-je point. Ton amour le plus tendre et le plus dévoué qui jamais ait ennobli le cœur d'un homme ne saurait m'y attirer. Hélas, ma bien-aimée, je n'ai point assez d'argent pour aller là où tu es, donner, recevoir un dernier baiser, un baiser où je puiserai la force nécessaire à mon entreprise. Pauvre Charles, j'ai bien fait de lire. J'ai de l'or, je lui donnerai, dit Eugénie. Elle reprit sa lecture après avoir essuyé ses pleurs. Je n'avais point encore songé au malheur de la misère. Si j'ai les 100 louis indispensables au passage, je n'aurai pas un sou pour me faire une pacotille. Mais non, je n'aurai ni 100 louis, ni 1 louis. Je ne connaîtrai ce qui me restera d'argent qu'après le règlement de mes dettes à Paris. Si je n'ai rien, j'irai tranquillement à Nantes. Je m'y embarquerai simple matelot et je commencerai là-bas comme ont commencé les hommes d'énergie qui, jeunes, n'avaient pas un sou et sont revenus riches des Indes. Depuis ce matin, j'ai froidement envisagé mon avenir. Il est plus horrible pour moi que pour tout autre. Moi, choyée par une mère qui m'adorait, chérie par le meilleur des pères et qui, à mon début dans le monde, ai rencontré l'amour d'une Anna. Je n'ai connu que les fleurs de la vie. Ce bonheur ne pouvait pas durer. Eh bien, j'ai réfléchi à ma position. J'ai réfléchi à la tienne aussi. J'ai bien vieilli en 24 heures. Chère Anna, C'est pour me garder près de toi, dans Paris, tu sacrifiais toutes les jouissances de ton luxe, ta toilette, ta loge à l'opéra. Nous n'arriverions pas encore au chiffre des dépenses nécessaires à ma vie dissipée. Puis je ne saurais accepter tant de sacrifices. Nous nous quittons donc aujourd'hui, pour toujours. Il la quitte, Sainte Vierge, au bonheur. Eugénie sauta de joie. Charles fit un mouvement. Elle en eut froid de terreur, mais heureusement pour elle, il ne s'éveilla pas. Elle reprit. Quand reviendrai-je? Je ne sais. Le climat des Indes vieillit promptement un Européen, et surtout un Européen qui travaille. Mettons-nous à 10 ans d'ici. Dans 10 ans, ta fille aura 18 ans. Elle sera ta compagne, ton espion. Pour toi, le monde sera bien cruel, ta fille le sera peut-être davantage. Garde au fond de ton âme, comme je le garderai moi-même, le souvenir de ces 4 années de bonheur, et sois fidèle, si tu peux, à ton pauvre ami. Je ne saurais toutefois l'exiger parce que, vois-tu, ma chère Annette, je dois me conformer à ma position, voir bourgeoisement la vie et la chiffrer au plus vrai. Donc je dois penser au mariage, qui devient une nécessité de ma nouvelle existence, et je t'avouerai que j'ai trouvé ici, à Saumur, chez mon oncle, une cousine dont les manières, la figure, l'esprit et le cœur te plairaient, et qui, en outre, me paraît avoir... Il devait être bien fatigué pour avoir cessé de lui écrire. Se dit Eugénie en voyant la lettre arrêtée au milieu de cette phrase. Elle le justifiait. N'était-il pas impossible alors que cette innocente fille s'aperçût de la froideur empreinte dans cette lettre? Les erreurs de la femme viennent presque toujours de sa croyance au bien ou dans sa confiance dans le vrai. Pour Eugénie, ces mots « ma chère Annette, ma bien-aimée » lui résonnaient au cœur comme le plus joli langage de l'amour et lui caressait l'âme. D'ailleurs, les larmes qui baignaient encore les yeux de Charles lui accusaient toutes les noblesses de cœur par lesquelles une jeune fille doit être séduite. Charles était un homme trop à la mode. Il avait été trop constamment heureux par ses parents, trop adulé par le monde pour avoir de grands sentiments. Le grain d'or que sa mère lui avait jeté au cœur s'était étendu dans la filière parisienne. Il l'avait employé en superficie et devait l'user par le frottement. Mais Charles n'avait encore que 21 ans. À cet âge, la fraîcheur de la vie semble inséparable de la candeur de l'âme. La voix, le regard, la figure paraissent en harmonie avec les sentiments. Charles n'avait jamais eu l'occasion d'appliquer les maximes de la morale parisienne. Et jusqu'à ce jour, il était beau d'inexpérience. Mais à son insu, l'égoïsme lui avait été inoculé. Eugénie, eût-elle été prudente et observatrice autant que le sont certaines filles en province, aurait-elle pu se défier de son cousin, quand chez lui, les manières, les paroles et les actions s'accordaient encore avec les inspirations du cœur? Un hasard fatal pour elle lui fit essuyer les dernières effusions de sensibilité vraie qui fut en ce jeune cœur et entendre, pour ainsi dire, les derniers soupirs de la conscience. Elle laissa donc cette lettre pour elle, pleine d'amour, et se mit complaisamment à contempler son cousin endormi. Les fraîches illusions de la vie jouaient encore pour elle sur ce visage. Elle se jura d'abord à elle-même de l'aimer toujours. Puis, elle jeta les yeux sur l'autre lettre sans attacher beaucoup d'importance à cette indiscrétion. Et si elle commença de la lire, ce fut pour acquérir de nouvelles preuves des nobles qualités que, semblables à toutes les femmes, elle prêtait à celui qu'elle choisissait. « Mon cher Alphonse, au moment où tu liras cette lettre, je n'aurai plus d'amis. Mais je t'avoue qu'en doutant de ces gens du monde habitués à prodiguer ce mot, je n'ai pas douté de ton amitié. Je te charge donc d'arranger mes affaires et compte sur toi pour tirer un bon parti de tout ce que je possède. Tu dois maintenant connaître ma position. Je n'ai plus rien et veux partir pour les Indes. Je viens d'écrire à toutes les personnes auxquelles je crois devoir quelque argent, et tu en trouveras ci-joint la liste aussi exacte qu'il m'est possible de la donner de mémoire. Ma bibliothèque, mes meubles, mes voitures, mes chevaux, etc. suffiront, je crois, à payer mes dettes. Je ne veux me réserver que les babioles sans valeur qui seront susceptibles de me faire un commencement de pacotille. Mon cher Alphonse, je t'enverrai d'ici pour cette vente une procuration régulière en cas de contestation. Tu m'adresseras toutes mes armes. Puis, tu garderas pour toi Briton. Personne ne voudrait donner le prix de cette admirable bête. J'aime mieux te l'offrir comme la bague d'usage que lègue un mourant à son exécuteur testamentaire. On m'a fait une très confortable voiture de voyage chez les Fary, Brellman et compagnie, mais ils ne l'ont pas livrée. Obtiens d'eux qu'ils la gardent sans me demander d'indemnité. Cher cousin, dit Eugénie en laissant la lettre et se sauvant à petits pas chez elle avec une des bougies allumées. Là, ce ne fut pas sans une vraie émotion de plaisir qu'elle ouvrit le tiroir d'un vieux meuble en chêne. Elle y prit une grosse bourse en velours rouge à glands d'or et bordée de cannetis usés, provenant de la succession de sa grand-mère. Puis, elle pesa fort orgueilleusement cette bourse et se plut à vérifier le compte oublié de son petit pécule. Ce trésor contenait des pièces neuves et vierges, de véritables morceaux d'art desquels le père Grandet s'informait parfois et qu'il voulait revoir. Mais elle ne pensait ni à ses raretés, ni à la manie de son père, ni au danger qu'il y avait pour elle de se démunir d'un trésor si cher à son père. Non, elle songeait à son cousin, et parvint enfin à comprendre, après quelques fautes de calcul, qu'elle possédait environ 5 800 francs en valeur réelle, qui conventionnellement pouvait se vendre près de 2 000 écus. À la vue de ces richesses, elle se mit à applaudir en battant des mains, comme un enfant forcé de perdre son trop-plein de joie dans les naïfs mouvements du corps. Ainsi, le père et la fille avaient compté chacun leur fortune. Lui, pour aller vendre son or, Eugénie, pour jeter le sien dans un océan d'affection. Elle remit les pièces dans la vieille bourse, la prit et remonta sans hésitation. La misère secrète de son cousin lui faisait oublier la nuit, les convenances. Puis elle était forte de sa conscience, de son dévouement, de son bonheur. Au moment où elle se montra sur le seuil de la porte en tenant d'une main la bougie, de l'autre sa bourse, Charles se réveilla, vit sa cousine et resta béant de surprise. Eugénie s'avança, posa le flambeau sur la table et dit d'une voix émue. « Mon cousin, j'ai à vous demander pardon d'une faute grave que j'ai commise envers vous. Mais Dieu me le pardonnera, ce péché, si vous voulez l'effacer. Qu'est-ce donc ? » dit Charles en se frottant les yeux. « J'ai lu ces deux lettres. » Charles rougit. « Et vos projets, la nécessité vous aide d'avoir une somme ?»« Ma chère cousine !»« Chut, chut ! Mon cousin, pas si haut ! N'éveillons personne !» Voici, dit-elle en ouvrant la bourse, les économies d'une pauvre fille qui n'a besoin de rien. Charles, acceptez-les. Ce matin, j'ignorais ce qu'était l'argent. Vous me l'avez appris. Ce n'est qu'un moyen, voilà tout. Un cousin a presque un frère, vous pouvez bien emprunter la bourse de votre sœur. Eugénie, autant femme que jeune fille, n'avait pas prévu des refus, et son cousin restait muet. Eh bien, vous refuseriez ? Demanda Eugénie, dont les palpitations retentirent au milieu du profond silence. « Je ne me relèverai pas que vous n'ayez pris cet or, » dit-elle. « Mon cousin de grâce, une réponse. Que je sache si vous m'honorez, si vous êtes généreux, si... » En entendant le cri d'un noble désespoir, Charles laissa tomber des larmes sur les mains de sa cousine, qu'il saisit afin de l'empêcher de s'agenouiller. En recevant ses larmes chaudes, Eugénie sauta sur la bourse, la lui versa sur la table. « Eh bien oui, n'est-ce pas ? » dit-elle en pleurant de joie. « Ne craignez rien, mon cousin. Vous serez riche. Cet or vous portera bonheur. Un jour, vous me le rendrez. D'ailleurs, nous nous associerons. Enfin, je passerai par toutes les conditions que vous m'imposerez. Mais vous ne devriez pas donner tant de prix à ce don. » Charles put enfin exprimer ses sentiments. « Oui, Eugénie. J'aurais l'âme bien petite si je n'acceptais pas. Cependant, rien pour rien. Confiance pour confiance. » « Que voulez-vous » dit-elle effrayée. Écoutez, ma chère cousine, j'ai là... » Il s'interrompit pour montrer sur la commode une caisse carrée enveloppée d'un surtout de cuir. « Là, voyez-vous, une chose qui m'est aussi précieuse que la vie. Cette boîte est un présent de ma mère. Depuis ce matin, je pensais que si elle pouvait sortir de sa tombe, elle vendrait elle-même l'or que sa tendresse lui a fait prodiguer dans ce nécessaire. » Mais, accomplie par moi, cette action me paraîtrait un sacrilège. Eugénie serra convulsivement la main de son cousin en entendant ces derniers mots. Non, reprit-il, après une légère pause, pendant laquelle tous deux ils se jetèrent un regard humide. Non, je ne veux ni le détruire, ni le risquer dans mes voyages. Chère Eugénie, vous en serez dépositaire. Jamais ami n'aura confié quelque chose de plus sacré à son ami. Soyez-en juge. Il alla prendre la boîte, la sortit du fourreau, l'ouvrit et montra tristement à sa cousine émerveillée un nécessaire où le travail donnait alors un prix bien supérieur à celui de son poids. « Ce que vous admirez n'est rien, » dit-il en poussant un ressort qui fit partir un double fond. « Voilà ce qui, pour moi, vaut la terre entière. » Il tira deux portraits. Deux chefs-d'œuvre de Madame de Mirbel, richement entourés de perles. « Oh, la belle personne! N'est-ce pas cette dame à qui vous écrivez ?»« Non, » dit-il en souriant. « Cette femme est ma mère. Et voici mon père, qui sont votre tante et votre oncle. » Eugénie, je devrais vous supplier à genoux de me garder ce trésor. Si je périssais en perdant votre petite fortune, cet or vous dédommagerait. Et à vous seul, je puis laisser les deux portraits. Vous êtes digne de les conserver, mais détruisez-les afin qu'après vous, ils n'aillent pas en d'autres mains. Eugénie se taisait. Eh bien oui, n'est-ce pas? Ajouta-t-il avec grâce. En entendant les mots qu'elle venait de dire à son cousin, elle lui jeta son premier regard de femme aimante, un de ces regards où il y a presque autant de coquetterie que de profondeur. Il lui prit la main et la baisa. Ange de pureté entre nous, n'est-ce pas? L'argent ne sera jamais rien. Le sentiment qui en fait quelque chose sera tout désormais. Vous ressemblez à votre mère? Avait-elle la voix aussi douce que la vôtre? Oh, bien plus douce. Oui, pour vous, dit-elle en abaissant ses paupières. Allons, Charles, couchez-vous. Je le veux, vous êtes fatigué. À demain. Ah, pourquoi suis-je ruiné? Dit-il. Bah, mon père est riche, je le crois, répondit-elle. Pauvre enfant, reprit Charles en avançant un pied dans la chambre et s'appuyant le dos au mur. Il n'aurait pas laissé mourir le mien. Il ne vous laisserait pas dans ce dénuement, enfin, il vivrait autrement. Si votre père avait seulement 24 000 livres de rente, habiteriez-vous dans cette chambre froide et nue? Ajouta-t-il en avançant le pied gauche. Là seront donc mes trésors, dit-il en montrant le vieux bahut pour voiler sa pensée. Allez dormir, dit-elle en l'empêchant d'entrer dans une chambre en désordre. Charles se retira et ils se dirent bonsoir par un mutuel sourire. Tous deux, ils s'endormirent dans le même rêve et Charles commença dès lors à jeter quelques roses sur son deuil.